Alain Badiou, bonjour, je suis ravi de vous rencontrer pour la première fois.
Ben moi aussi.
Alors écoutez, on va, si vous voulez, faire une petite promenade dans ce qui se passe un peu en ce moment, dans ce qu'on est convenu d'appeler l'actualité. Je vais prendre des choses qui se disent dans les infos, radio, journaux et télé, et puis vous proposerai de réagir. Autour aussi quand même de vos deux récents livres, l'un qui vous vaut une certaine popularité, « De quoi Sarkozy est-il le nom ?» et qui vous a valu tout d'un coup un intérêt médiatique et même un certain succès de librairie. Et puis un livre qui a suivi, qui vient de sortir plus récemment, qui s'appelle « L'hypothèse communiste ». Cette hypothèse communiste, vous en parlez depuis longtemps, mais vous aviez réservé à ce thème un chapitre de quoi Sarkozy est-il le nom. Alors, si vous voulez bien, on va prendre un fait qu'on trouve aujourd'hui dans la presse, la fête de l'humanité. La fête de l'humanité, c'était ce week-end. On dit que ça a été un succès. Et la fête de l'humanité, ben, ma foi, c'est la fête d'un journal communiste. Or, votre propos, depuis longtemps, mais enfin récemment, avec beaucoup plus de vigueur, c'est de revenir à cette hypothèse communiste. Quel lien peut-il y avoir entre ce parti communiste et votre hypothèse communiste ?
Écoutez, je pense malheureusement que le lien est assez ténu, ou qu'il est devenu assez ténu, hein. Et d'ailleurs, anecdotiquement, je dois dire que après avoir dans un premier temps envisagé de participer à la fête de l'humanité, puisque j'y avais été convié officiellement, j'ai, réfléchissant bien à tout ça, préféré m'en abstenir. Hein. Alors, la raison en est au fond assez simple. Je pense, comme je l'ai dit dans les livres que vous mentionnez, je pense qu'une certaine séquence de l'histoire du communisme, appelons ça comme ça, de l'histoire de ce mot même, est achevée. C'est-à-dire, je pense que le XXe siècle, en gros, a été le lieu d'une expérience qui se réclamait beaucoup de ce mot, et que cette expérience, malgré tout, pour des raisons profondes et difficiles d'ailleurs à expliquer complètement, cette expérience s'est terminée dans une impasse tout de même. De ce point de vue, le Parti communiste lui-même, quels que soient ses valeureux efforts pour passer outre cette impasse, appartient au vieux monde, à mes yeux. Il appartient au vieux monde. Alors, du coup, je suis évidemment partagé. D'un côté, il se revendique d'un mot qui m'est cher et dont je voudrais assurer, si je puis dire, la résurrection. Hein. Et d'autre part, il représente aussi la vieille forme de ce mot et une expérience qui, malgré tout, est devenue si douteuse que, comme vous le savez, on discute périodiquement aujourd'hui dans le Parti communiste de la question de savoir s'il faut garder le mot communisme ou pas. Hein. Il est gardé, mais il est aussi soupçonné, discuté, etc. Alors, comme moi, je voudrais déblayer le terrain et faire du mot communisme un mot, non pas neuf, naturellement, j'assume l'histoire, j'assume la continuité, mais un mot pour notre temps, un mot pour aujourd'hui, un mot pour le futur. Je pense que le Parti communiste, avec tout ce qu'il a représenté, et ça fut fort important dans l'histoire française en particulier, tourne ce mot vers le passé plutôt que vers l'avenir. Voilà pourquoi je suis d'un côté, malgré tout, tenté de discuter, de parler, de rencontrer des gens qui sont encore ou qui ont été membres du Parti communiste. Mais d'autre côté, je n'ai pas envie d'être associé, en quelque sorte, officiellement, à l'existence institutionnelle, politique, partisane, électorale du Parti communiste. Surtout quand je vois que sa perspective générale reste tout de même absolument classique, c'est-à-dire l'union de la gauche, combinée aux luttes sociales, etc. Donc il y a dans tout ça quelque chose d'usé, à mon sens, et c'est la raison pour laquelle je n'ai nullement souhaité l'échec ou la débâcle de la fête de l'humanité, mais je ne m'en réclamerai pas tout de même.
Vous dites que le communisme au XXe siècle a conduit à une impasse. Cette expérience a conduit à une impasse. D'abord, je pense et dites-moi ce que vous en pensez, vous, qu'il y a eu plusieurs communismes. Il y a eu le stalinisme, il y a eu le maoïsme, il y a eu les formes diverses et variées en Amérique latine, en Afrique, etc. Et pour vous, c'est une impasse. Alors que ce qui est inscrit dans les mémoires, ce qui a été placé dans la doxa, l'opinion générale, c'est pas ça a conduit à une impasse, c'est que ça a conduit au goulag. Si je me réfère à ce qu'ont dit nos nouveaux philosophes à la fin des années 70, c'est communisme égal goulag.
Absolument, et je ne suis pas du tout non plus du côté de ce type de bilan. Je pense que le communisme a été bien des choses, vous avez tout à fait raison de rappeler sa complexité interne. Non seulement les différentes orientations, le stalinisme, le trotskisme, les expériences de guérilla en Amérique latine, etc., etc., le mouvement social, mais aussi les différentes séquences, les moments tout à fait différents de cette expérience, hein. Entre ce qu'a été le communisme de l'époque de la révolution d'octobre 17, le communisme de la guérilla paysanne en Chine, le communisme dont s'est réclamé finalement Fidel Castro, etc. Il y a non seulement des différences d'orientation, mais il y a des différences de temporalité, des différences d'époque, des différences de moments. Donc il y a cette complexité. Quand je dis qu'il a conduit à une impasse, c'est que je pense qu'il y a tout de même un cadre général qui était partagé, et qui était partagé d'ailleurs bien au-delà des formations communistes proprement dites, que de nombreux intellectuels, de nombreux philosophes, pensons à Sartre, mais pensons à beaucoup d'autres, ont partagé. Il y avait un cadre général dont, je pense, le cœur était qu'il existait un agent historique principal du passage au communisme. On pouvait l'appeler le prolétariat, on pouvait l'appeler la classe ouvrière, on pouvait l'appeler le parti même, dans une version plus restreinte des choses. Il y avait un agent historique désigné, et au fond, l'idée était que si cet agent historique désigné s'emparait du pouvoir, il allait y avoir une ouverture réelle vers une transformation radicale de la société, vers une émancipation de l'humanité tout entière, et que ça serait ça le communisme. Il y avait donc trois aspects, je pense, qui étaient quand même partagés par tout le monde. L'existence d'un agent historique capable de faire survenir et aboutir l'hypothèse. L'idée qu'il s'agissait d'organiser cet agent, avec de grandes divergences sur ce que ça voulait dire, mais il s'agissait d'organiser cet agent. Et troisièmement, l'idée que la question clé était la question du pouvoir. C'est-à-dire qu'on devait passer d'une forme d'État à une autre forme d'État. C'était ce que révolution voulait dire, après tout. Révolution, ça veut dire on s'empare du pouvoir, on brise la vieille machine d'État, comme disait Marx, et on en construit une nouvelle. Je pense que c'est ce schéma qui est aujourd'hui obsolète. En tout cas, on ne voit plus très bien ce qu'il veut dire. Et comme on ne voit plus très bien ce qu'il veut dire, moi, je cherche pour l'instant à garder le mot communisme comme désignant l'idéal d'une société délivrée de la tyrannie de la propriété privée et du capitalisme sous toutes ses formes.
Alors vous allez à la base, là,
oui,
vous rejoignez...
Oui, je reviens aux origines,
On entend Babeuf, on entend
Marx...
Oui,
mais absolument, on entend Babeuf, on entend Marx, et on entend ce qui, même chez Lénine, même chez Mao, s'entendait encore de Marx et de Babeuf. À savoir, l'idée d'une autre possibilité d'organisation sociale, une autre possibilité réellement absolument différente sous le mot d'ordre de l'égalité et de la fin de la dictature de la propriété privée. J'entends d'abord remettre à l'ordre du jour cette possibilité. Et je pense que pour le faire librement, il ne faut pas être paralysé par l'héritage historique, ni dans un sens négatif, ni dans un sens positif. Dans un sens négatif, je ne vais pas dire cette expérience de A jusqu'à Z est un crime, ce qui est au fond l'hypothèse qui domine depuis 20 ans. Je ne dirais pas cela, absolument pas. C'est une expérience qui a contenu de l'enthousiasme, de la passion. Va-t-on considérer comme des criminels les millions d'ouvriers, de paysans qui, dans le monde, se sont enthousiasmés pour cela, ont donné leur vie à ça, etc. C'est une absurdité, je pense. Il y a eu des crimes, bien évidemment, mais l'idée et le processus n'étaient pas cramés. Je ne dirais pas ça, mais je ne dirais pas non plus qu'on peut continuer dans la même voie. Voilà. Et c'est ça ce qu'appellerait un bilan trop positif.
On va dans les jours qui viennent, et déjà on a commencé à célébrer le 20e anniversaire de la chute du mur et l'effondrement ou l'implosion du communisme, comme on a dit à l'époque. Il se trouvait que j'étais à cette époque à Berlin et quelqu'un disait « Oui, c'est très bien, mais maintenant, qui est-ce qui va faire peur aux riches ?»
Ça, c'est une très bonne remarque. Je dis souvent, de façon un peu provocatrice, mais par les temps qui courent, un peu de provocation ne fait pas de mal, après tout.
Vous n'auriez pas le monopole, vous
non,
pouvez y aller.
Non, exactement. Et donc, je dis souvent, Staline était certainement, à beaucoup d'égards, à la fois une catastrophe et une horreur, Mais il faut bien reconnaître que du temps de Staline, le monde capitaliste, le monde bourgeois, avait peur. Voilà. Et la question de savoir qui va faire peur aux riches, ou qui, de façon plus sophistiquée, va faire peur au triomphal Occident contemporain, c'est une vraie question. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'effondrement de l'Union soviétique et de son système à la fois despotique, impérial et aussi différent, malgré tout, c'est pour moi, pour quelques mois, un phénomène ambigu. D'un côté, naturellement, je pense que c'était absolument au bout du rouleau, et que, d'ailleurs, il est très frappant de voir que ce système ne s'est pas écroulé sous la poussée d'une révolution, d'une insurrection populaire, d'un mécontentement. Il a été liquidé par ses propres agents. Et c'est la bureaucratie elle-même qui a vu que ce système était comme un diplodocus inerte. Hein. Donc, on a renoncé à ce système, on l'a bradé, on l'a liquidé. Et ça, c'était quand même parce qu'il était déjà mort. Mais d'un autre côté, s'en réjouir unilatéralement, comme l'avenir l'a immédiatement montré d'ailleurs, c'est un petit peu aventureux. Hein. C'est un petit peu aventureux, pour la raison que vous dites. Le monde, au lieu d'être divisé, s'est réunifié autour de l'hypothèse capitaliste et bourgeoise, d'un côté, et d'autre part, ça nous laisse un peu orphelins de cette expérience, de ce qu'elle a signifié, de ce qu'elle a constitué. Et au fond, il faut recommencer les choses un peu à nu. C'est ça la difficulté.
Alors quand vous dites hypothèse, pour moi le mot hypothèse, c'est lié à la notion de croire, de supposer quelque chose, donc un peu de croire. Et je reviens à Berlin en 1989, quelqu'un qui était un dramaturge, qui avait travaillé avec Brecht, qui m'avait dit « Oui, mais le communisme, vous voyez, c'est un peu comme une religion. Et si on regarde l'histoire des grandes religions, il y a eu des crimes épouvantables, des catastrophes épouvantables qui sont arrivées dans leur histoire. Ça ne les a pas empêchés de revenir, de ressusciter. Et vous verrez, me disait-il, que le communisme reviendra. » Je voudrais que vous parliez un peu de cette analogie entre votre foi dans le communisme et la religion.
Je voudrais faire une remarque de lexique. Le mot hypothèse est absolument tiraillé dans deux directions contraires. Car c'est un mot qui appartient évidemment au vocabulaire de la croyance. C'est aussi un mot qui appartient, comme vous le savez, au vocabulaire de la science. La science et l'hypothèse, c'est le titre d'un livre fameux. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je pense que, depuis ses origines, le communisme moderne a tenté une synthèse entre une dimension scientifique et une dimension, qu'on peut dire religieuse si l'on veut, mais je dirais une dimension de croyance, une dimension de conviction. Dans son vocabulaire à lui, on dirait une dimension idéologique. Après tout, quand mon maître Althusser opposait science et idéologie, il fallait bien conclure que d'une certaine façon, ce qu'on appelait le marxisme, la révolution, le communisme, c'était un peu les deux. C'est à la fois une analyse scientifique tout à fait argumentée et précise des structures du capitalisme d'un côté, et de l'autre part, c'est une croyance ou une conviction concernant l'émancipation. Et moi je dirais, je tiens au fond à cette ambiguïté. Par hypothèse communiste, je désigne le maintien, si je puis dire, de cette ambiguïté. Beaucoup de positivistes ont dit, oui, il y a une part scientifique dans le marxisme, mais elle est complètement contaminée par, finalement, un messianisme qui ressemble beaucoup à de la religion. Et puis, de l'autre côté, on a dit, oui, le communisme s'intéressant comme conviction, comme idéologie, comme moteur subjectif, mais la partie scientifique, c'est un peu positiviste, finalement, un peu déterministe, on nous fait croire que l'histoire va nous y faire arriver par elle-même. Et moi, je dis, au fond, c'est ni l'un ni l'autre, c'est effectivement une synthèse tout à fait singulière, qui a ses origines dans la Révolution française elle-même, où on trouve ce double aspect aussi, hein, la référence à l'encyclopédie, aux sciences, etc. Et puis d'autre part, la foi dans la vertu, comme disaient les révolutionnaires de 89. Je tiens à cette ambiguïté. Et le mot hypothèse, pour moi, désigne les deux à la fois. Et il dit, premièrement, il n'est pas vrai qu'il faille abandonner l'ensemble des acquis de l'analyse scientifique de ce qu'est le capitalisme par le marxisme rigoureux. C'est tout à fait important. Ça indique tout de même un certain nombre de choses qui demeurent. Et non seulement elles demeurent, mais elles sont plus vraies aujourd'hui qu'elles ne l'étaient du temps de Marx. Si vous prenez par exemple l'expression marché mondial, qui est fondamentale chez Marx, aujourd'hui on sait ce que c'est le marché mondial.
Oui.
On le sait beaucoup mieux que vers 1848. Hein. Donc il ne faut pas abandonner ça, mais il ne faut pas pour autant réduire le marxisme à une sorte de science objective, en faire au fond une des tendances possibles de l'économie politique. Il faut aussi en garder la dimension volontariste, subjective, idéologique, à savoir la conviction qu'un autre monde est possible.
Alors, on continue, Alain Badiou, avec l'hypothèse communiste. On parlera un petit peu de Sarkozy, mais ce sera la distraction pour finir. Quoique c'est peut-être pas si drôle que ça, après tout. Dans l'hypothèse communiste, vous référez à trois moments historiques, la Commune de Paris, la Révolution culturelle en Chine et mai 68. Dans l'esprit des auditeurs, ils voient la Commune comme un moment, je pense pour la plupart, héroïque, et un échec héroïque, une défaite victorieuse. Mai 68, il doit y avoir des controverses qui n'en finissent pas sur mai 68. Mais alors, il y a une chose qui est unanimement rejetée, c'est la Révolution culturelle, avec ses dizaines de millions de morts. Or, vous faites, c'est ce qui est dans les esprits, je suppose, parce que je suis un expert des esprits. J'en sais rien du tout, mais j'imagine qu'il y a un cliché qui tourne autour de la Révolution culturelle. Comment vous vous débrouillez avec ces trois exemples ?
Eh bien, écoutez, je crois que je voulais donner trois exemples d'échecs, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Il s'agit d'introduire à une analyse détaillée de la notion d'échec, parce que l'idée de l'échec est au fond le principal argument de la polémique anticommuniste aujourd'hui.
Ça n'a jamais marché, ça a toujours échoué.
Ça a toujours échoué, ça a toujours échoué de façon de surcroît désastreuse, soit héroïquement désastreuse, soit désastreuse de façon sanglante et abominable, mais de toute façon ça a toujours échoué, et ça échouera toujours, parce que l'idée qu'on remet en selle, c'est que c'est profondément antinaturel. C'est-à-dire que la nature des choses, c'est le capitalisme. La nature des choses, c'est la propriété privée. La nature des choses, c'est l'égoïsme. Voilà, c'est le fond de l'affaire, c'est que la nature des choses, c'est l'égoïsme, que toute société qui ne s'appuie pas en dernier sort sur cet instinct égoïste de l'individu, est une société vouée à l'utopie, laquelle utopie sera soit héroïquement abattue, soit deviendra criminelle. Et donc, moi, je voulais présenter trois exemples d'échecs tout à fait différents, précisément, pour aller un peu en avant de cette notion d'échec. La Commune de Paris, c'est ce qu'on pourrait appeler l'exemple classique de l'échec, c'est-à-dire c'est l'insurrection ouvrière à forte dose idéologique et à forte dose utopique, qui se produit un peu par hasard et qui est évidemment, quelles qu'en soient les qualités morales extraordinaires, écrasée par un rapport de force militaire et politique qui lui est entièrement défavorable. Mai 68, c'est l'échec moderne, c'est-à-dire c'est la fête, c'est l'image de la fête des esprits qui se nourrit d'elle-même pendant un temps et qui ensuite doit revenir à l'ordre réel des choses, à savoir précisément le fait que il n'est pas vrai que on puisse comme ça interrompre dans une sorte de célébration collective l'ordre des choses. En réalité, il faut toujours revenir à sa construction véritable. La révolution culturelle, c'est encore une troisième forme d'échec tout à fait différent, parce que c'est une tentative révolutionnaire interne à l'ordre socialiste lui-même. Et au fond, on pourrait dire la Commune de Paris, c'est interne aux phases primitives du capitalisme européen. Mai 68, c'est presque notre histoire récente. C'est le passage peut-être d'un capitalisme plus étatique à un capitalisme plus mondialisé. Enfin, c'est quelque chose comme ça. La révolution culturelle, c'est tout à fait à part. C'est le seul exemple qu'on connaisse de vastes tempêtes révolutionnaires, comme disaient les Chinois de l'époque, avec des mobilisations de millions de gens internes à l'État socialiste lui-même, internes à l'État despotique. Et donc c'est évidemment un tout autre problème. Dans les trois cas, la question des violences est tout à fait différente, en effet. Hein, la question de la Commune, c'est principalement la question du massacre des ouvriers par dizaines de milliers dans les rues de Paris. Dans le cas de mai 68, c'est l'innocence de la fête qui fait qu'il y a peu de victimes, et que finalement l'affrontement n'a pas vraiment lieu. Enfin, c'est un affrontement statique, si je puis dire. Personne ne songe à prendre le pouvoir, en réalité, en mai 68. Et la révolution culturelle, C'est une séquence qui dure en réalité 10 ans, qui est extraordinairement coûteuse, ça il n'y a pas l'ombre d'un doute, et d'autant plus coûteuse que d'une certaine manière, la question de qui opprime qui, de qui tue qui, etc., est extraordinairement confuse à l'intérieur même du dispositif en question, puisque, comme on sait, le ressort dernier de tout ça est une division de l'appareil d'État lui-même. C'est-à-dire que l'appareil d'État lui-même se trouve divisé contre lui-même, le parti lui-même est contesté par une partie du parti et par une masse de révolutionnaires. Donc on a une situation entièrement inédite, sans aucun précédent, et qui fournit à la notion d'échec une dimension tout à fait différente. Voilà, c'était pour ça que j'ai parlé des trois.
Est-ce que vous avez des exemples de ce communisme qui ressemblerait à l'hypothèse que vous faites aujourd'hui?
Écoutez, je crois que si on regarde de près les expériences révolutionnaires connues depuis la Révolution française jusqu'à nos jours, dans quasiment toutes les tentatives, on peut trouver des éléments qui ressemblent, du point de vue de leur orientation, de leur représentation, de ce qui est tenté, à ce qu'on peut appeler l'hypothèse communiste. J'ai même autrefois écrit un livre, un petit livre, dans lequel je parlais de ce que j'appelais les invariants communistes. Et les invariants communistes, c'était ce qui, dans toute levée populaire un peu massive, dans toute séquence révolutionnaire véritable, dans tout épisode historique qui est une véritable rupture, réapparaît constamment. Alors, on a manifestement, de façon tout à fait principale, ce qu'on pourrait appeler la volonté égalitaire. C'est quand même elle qui se resignale à chaque fois qu'il y a des épisodes de ce genre. Il y a l'idée que peut-être on pourrait s'organiser, s'auto-organiser, sans qu'il y ait nécessairement des gens en haut et des gens en bas, sans qu'il y ait nécessairement une police séparée et oppressive. Et c'est ce qui donne des tentatives bien connues comme les comités de village, les milices populaires, etc., etc. Et puis il y a donc tous ces phénomènes-là. Et puis il y a l'idée que si on éduque tout le monde, c'est-à-dire que si on installe tout le monde dans une subjectivité à la fois égalitaire et instruite, les deux simultanément, on va procéder à un changement progressif de la situation, parce que on va en réalité lutter contre la division du travail. Or ça, je pense que c'est un point clé, à peu près oublié, mais fondamental. Le communisme, ça a quand même comme aspect peut-être principal de mettre fin à la division du travail. C'est-à-dire de mettre fin à ce qui demeure tout de même un scandale, enfin pour moi, un scandale quotidien, qui est que non seulement celui qui est astreint à creuser des trous dans le trottoir est astreint à un travail infiniment dur, pénible, méprisé et invisible, on ne fait pas attention à lui, on ne le voit pas, mais en plus, c'est lui qui gagne le moins. Hein ? Donc celui qui fait le travail le plus ingrat, le plus invisible et le plus méprisé est en plus celui qui doit être le plus pauvre. Ça, c'est quand même quelque chose dont personne ne peut accepter que ça soit le destin général de l'humanité. Hein ? Et la révolte contre ce point-là peut prendre des formes dont on s'est beaucoup moqué, comme l'exaltation du travailleur ordinaire, la statue de l'ouvrier, on en trouve même en Bolivie, quand il y a eu la révolte des ouvriers de l'étain, etc. Tout cela, au fond, est l'effervescence de l'idée communiste dans ses formes à la fois primitives et développées. C'est pourquoi je pense que l'hypothèse communiste est toujours vivante. Elle commence à être vivante dès la révolte des esclaves de Spartacus, c'est probablement oui. Avant.
Voilà, parce que vous parlez de la Révolution française, on peut remonter bien tout avant la volonté égalitaire, l'auto-organisation, l'éducation et lutter contre la division du travail. Voilà les points essentiels. Vous oubliez la propriété là-dedans.
Non, mais je pense que ce qui est apparu, alors là, de façon plus claire, à partir du moment proprement marxiste, ce qui est probablement l'invention du 19e siècle, ça, autour précisément de cette forme extraordinaire de la propriété qu'était le capitalisme, précisément, ça a été de montrer que les objectifs dont vous parlez, qui sont les objectifs véritables, finalement, sont inaccessibles dans un régime social qui est dominé par la propriété privée. Tant que la propriété privée domine, alors ce dont nous parlons là
n'est pas possible.
On peut transformer sur la marge, on peut améliorer, on peut faire que le sort des gens soit moins pénible, mais on ne peut pas transformer le fond des choses.
Dès que vous prononcez l'expression hypothèse communiste, aussitôt, on vous oppose la démocratie. On vous dit, ces expériences ont échoué, et ce qui marche, c'est la démocratie. Nous vivons en démocratie, nous sommes libres, nous allons et nous venons à notre guise, nous exerçons nos droits, il y a des droits de l'homme, et nous votons, surtout, nous votons. Donc, votre communisme, non, c'est pas ça du tout, c'est le goulag, c'est l'État qui est tout puissant, etc. Parlez-moi de la démocratie telle que nous la vivons, et telle que nous la défendons, et telle que nous l'imposons au monde.
Oui, y compris par des expéditions militaires d'ailleurs. Hein. On n'est pas entièrement regardant sur les moyens quand on veut imposer la démocratie quelque part. Écoutez, l'idée démocratique est une idée ancienne et qui a été critiquée très tôt, puisqu'on peut dire que les premières tentatives démocratiques reconnaissables et au fond paradigmatiques depuis, c'est la démocratie grecque dans l'Antiquité, et elle est à la fois soutenue et critiquée, y compris par les philosophes, dès le début. Je crois que le problème de ce qu'on entend par démocratie aujourd'hui, c'est que c'est un mot qui est devenu extrêmement confus, dans la mesure où pratiquement il concerne de façon unilatérale l'organisation des pouvoirs publics. C'est une des définitions possibles du mot démocratie. Lénine disait par exemple, mais démocratie c'est une forme d'État. C'est une forme d'État et nous, communistes, nous envisageons la fin de l'État. Ça aussi, c'est un thème, c'est pas qu'il faudrait remettre en scène. Faut pas oublier que communisme, ça voulait d'abord dire, peut-être, de manière essentielle, la fin de la division entre puissance exécutive et obéissance, et à la fin de l'organisation séparée d'un État militarisé, policier, oppressif, etc. Donc déjà, quand on fait l'apologie de la démocratie sans distinguer dans la signification du mot, on est interne à l'idée que l'État est éternel. C'est-à-dire qu'en vérité, on est déjà en dehors de l'hypothèse communiste sous sa forme la plus radicale. Ça, c'est un point qu'il faut remarquer. C'est-à-dire que si la démocratie est une forme d'État, ce qui, je crois, est à peu près unanimement reconnu aujourd'hui, la démocratie comme telle ne désigne pas quelque chose qui est interne à l'hypothèse communiste. Elle désigne l'état de fait dans lequel nous sommes aujourd'hui, et à l'intérieur duquel nous cherchons à édifier, à ressusciter l'idée communiste. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que la liberté est une catégorie dont la démocratie se revendique tout particulièrement, mais en vérité, l'hypothèse marxiste, dès son origine, mais peut-être même avant déjà Babeuf et quelques autres, c'est que la question de la liberté n'est pas la question ultime de la politique. De la politique émancipatrice, de la politique révolutionnaire. Que tant que la liberté reste prisonnière d'un régime inégalitaire essentiel, on n'en donne qu'une définition extrêmement restreinte. Parce que les gens sont libres, mais ils sont libres de quoi faire exactement? Ils sont libres de faire ce qu'ils peuvent faire, naturellement. Or, ces possibilités sont extraordinairement inégales. Ce que peuvent faire les gens n'est pas du tout la même chose si vous êtes un prolétaire malien qui vient de débarquer, qui est sans papier, qui est traqué par les polices et dont Heurtefeu dira qu'il en faut le moins possible, n'est-ce pas ? C'est pas la même chose que celui qui est, bon, même comme vous et moi déjà, hein. Donc la liberté sans une définition effective du système disponible des possibilités, c'est une définition tout à fait abstraite, hein. On peut voter, c'est une affaire entendue, mais même le vote, on le sait très bien, est une procédure qui met en jeu des moyens considérables, et ces moyens, il faut les avoir, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, ne peut être élu que celui qui est en disposition de l'être pour des raisons qui sont aujourd'hui extraordinairement lourdes et extraordinairement complexes, qui sont des raisons institutionnelles, financières, historiques, etc., etc. Par conséquent, moi je dirais simplement ceci, si par démocratie on entend en réalité, un régime d'association libre, largement égalitaire et qui a permis de surmonter les entraves imposées à tout le monde par la division du travail, démocratie et communisme veulent dire à peu près la même chose. Et j'accepte cette définition du mot. Si par démocratie on entend simplement la forme d'État représentatif tel qu'il existe aujourd'hui, on peut dire que cet État est peut-être meilleur que d'autres formes d'État. Moi, je l'ai jamais nié d'ailleurs pour ce qui me concerne, mais on ne peut absolument pas dire qu'on puisse s'en contenter. On ne peut pas s'en contenter parce que les conditions contemporaines de l'exercice du pouvoir politique sont des conditions extraordinairement restrictives quand on les regarde dans le réel.
Alain Badiou, je voudrais qu'on parle un peu de votre univers, votre monde à vous, qui est le monde d'intellectuel. Les livres que vous avez publiés ces temps derniers, qui font suite à une quantité d'ouvrages, de romans, de pièces de théâtre, d'ouvrages de philosophie ou d'ouvrages plus polémiques, nous ramènent un peu à la scène intellectuelle des années 60. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est pour Badiou, contre Badiou, Badiou est stalinien, Badiou est maoïste. C'est-à-dire qu'on s'engueule d'une façon beaucoup plus intéressante grâce à vous. Je voulais vous remercier au moins. Au moins de ça. Qu'est-ce qui fait que la scène intellectuelle est devenue, avec le temps, si fade et dépourvue d'enjeux ?
Écoutez, je crois qu'il faut pour cela nous situer à la fin des années 70, au début des années 80. C'est une histoire réelle. Les années 60 et les premières années 70 ont été marquées par une situation, je crois, sans précédent, de rapport entre la plus exigeante recherche intellectuelle et théorique et l'effervescence politique, populaire, massive, la plus grande. Mai 68, de ce point de vue-là, c'est un phénomène très singulier. Mai 68 est ce qui a suivi. Hein. C'est un phénomène dans lequel, tout le monde l'a remarqué, sont entièrement soudés l'un à l'autre, des aspects ordinairement très séparés, à savoir... l'engagement intellectuel le plus sophistiqué, le plus radical, et l'action militante la plus énergique et la plus vivante. Vers la fin des années 70, et surtout au début des années 80, ces deux éléments soudés se séparent, se disjoignent de nouveau. Mais l'effet de cette disjonction produit une situation pire que celle d'avant, si je puis dire. C'est-à-dire, l'effet de cette disjonction ramène une bonne partie des intellectuels à une fonction consensuelle, c'est-à-dire une fonction qui n'est plus une fonction critique, qui n'est plus une fonction animée par l'idée d'un autre monde possible, comme c'était encore le cas, malgré tout, des grands intellectuels critiques des années 60, mais à l'idée que l'intellectuel peut retrouver une place enviable en étant finalement homogène au monde dominant. Hein. C'est l'apparition des intellectuels médiatiques, des intellectuels installés dans l'appareil de communication générale, des intellectuels finalement ralliés au pouvoir, que ce soit le pouvoir de gauche ou le pouvoir de droite, en la matière n'a pas de conséquences très importantes du strict point de vue intellectuel. C'est la même chose, dès qu'on est du côté du pouvoir, on est du côté du pouvoir. Et se crée ainsi une sorte de classe intellectuelle, à mon avis, atone, largement serve ou spécialisée dans ses domaines propres, mais qui ne se mêle plus beaucoup des affaires de la cité. On a donc eu ce que moi j'ai appelé à l'époque un abaissement des intellectuels. Alors moi je suis rentré dans un souterrain, je me suis un peu mis à... J'ai maintenu l'hypothèse de la non-séparation en bricolant comme je pouvais, hein, dans une vie qui était à la fois une vie politique et intellectuelle, maintenue comme ça. Et puis j'ai continué mon travail dans les hypothèses qui étaient celles de cette époque-là, des années 60-70. Et puis au bout d'un certain temps, une vingtaine d'années tout de même, hein, c'est déjà pas mal.
Les taupes doivent savoir attendre.
Voilà, voilà, creuse vieille taupe, disait Marx, parlant de l'histoire. Mais je sais ce que c'est qu'être une vieille taupe. Et donc, au bout d'un certain temps, comme il est normal aussi, au fond, l'idée que l'intellectuel aurait peut-être une autre fonction que celle de peaufiner et de polir les catégories idéologiques dominantes, de les faire reluire, peut-être il peut faire autre chose et réapparaît. Et ça, je le vois, parce que professionnellement, je suis en contact avec toutes les strates successives de la jeunesse, si je puis dire. Et je vois bien qu'aujourd'hui, cette jeunesse intellectuelle est au fond divisée en deux parties. Une partie probablement encore majoritaire qui a le principal souci de se caser dans la société où c'est devenu difficile, hein, faut reconnaître aussi, où c'est devenu assez dur, assez bloqué. Les issues sont pas très ouvertes. Et puis une autre qui voudrait réintégrer l'histoire, quelque chose comme ça, qui cherche une porte d'entrée pour réintégrer le mouvement véritable de l'histoire. C'est pas facile non plus. Mais on va chercher les vieux, là, parce que... Eux, ils ont eu leur chance, alors ils peuvent nous enseigner peut-être quelque chose sur comment on retrouve la porte de l'histoire.
Il y a juste un an, le 15 septembre 2008, c'était la faillite de la banque Lehman Brothers, c'était le début de ce krach financier. Pour beaucoup d'observateurs, des journalistes, on s'est dit, alors là, cette fois-ci, le monde va comprendre. C'est tellement monstrueux, c'est tellement scandaleux, c'est tellement édifiant. Là, on n'est plus dans les livres, on n'est plus dans les spéculations, ni dans les réflexions de Badiou et des autres. On est dans la réalité. Cette fois-ci, le monde entier va comprendre. Un an après, business as usual, les banques, la finance aux États-Unis est rétablie, est remontée sur son cheval. L'économie, de façon générale, est beaucoup plus malade. Et puis, ce qu'on appelle le social, qui vient toujours derrière, est très mal en point. Comment vous expliquez si peu d'indignation, si peu de révolte face à quelque chose qui nous semblait, ou qui me semblait, aussi énorme?
Je crois qu'on peut dire deux choses sur ce point-là, qui me frappe aussi, comme vous. Le premier, ça je l'ai écrit tout de suite, l'idée que d'une crise grave du capitalisme puisse naître une critique radicale du capitalisme, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. C'est pas comme ça que les choses se passent. Parce que pour critiquer véritablement, pour tirer des conséquences vraiment importantes, et drastiques de cette crise, eh bien, il faut être justement armé d'une hypothèse alternative. Il faut avoir une autre vision. Si vous n'avez pas d'autre vision, vous allez quand même être nécessairement tiré du côté « évitons le pire ». J'ai été très frappé, je l'ai souvent dit, par le fait que, au fond, l'acte décisif du pouvoir d'État dans cette circonstance, qui a été de renflouer les banques, ça a été le geste majeur. Le reste, au fond, est absolument secondaire. Le geste fondamental, tiré du bilan de la crise de 29 d'ailleurs, ça a été absolument empêcher qu'il y ait d'autres Lehman Brothers. Et il y a eu consensus là-dessus. Tout le monde, au fond, a été soulagé que les États viennent en première ligne pour renflouer les banques. Parce que c'était la seule garantie que tout ça n'allait pas nous tomber sur la tête. Comprenez? Et on peut accepter qu'un univers vous tombe sur la tête si on a un peu l'idée d'un autre. Mais si on est dans celui-là et qu'on n'a aucune idée d'un autre, alors malgré tout, on se dit « moi, je ne suis pas prêt à ce que tout ça s'écroule sur moi ». Et je le comprends. Je le comprends. Et ça a renforcé chez moi la conviction que le travail actuel, ce n'est pas tant de dire « eh bien, vous voyez qu'il faut réformer le capitalisme », parce qu'en réalité, le capitalisme se réforme toujours lui-même en fonction des crises successives qui sont les siennes, il a toujours fait comme ça. La tâche principale, c'est de dire « ben voyons, est-ce qu'il existe une autre possibilité ?» S'il n'en existe pas, bien, acceptez les crises. Elles ont toujours été la loi du capitalisme. Les crises cycliques, les grandes crises de subproduction, etc., c'est une vieille histoire. Si par contre vous voulez tirer de cette crise la leçon que cette organisation de la société, de l'économie, de la politique, de l'idéologie n'est pas bonne, ben il faut revenir à la question de savoir qu'est-ce qu'on pense d'autre. Et au fond, j'ai été renforcé absolument par cette crise. J'ai d'ailleurs écrit tout de suite que personne n'en conclurait que c'est la fin du capitalisme, parce qu'à la fin du capitalisme, personne ne sait aujourd'hui ce que ça veut dire. Ou des choses comme elles sont. La fin du capitalisme, c'est quoi? Personne ne sait. Donc, il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par rééchafauder les données d'une hypothèse alternative. Et à ce moment-là, on accueillera les crises autrement. Mais je n'ai pas été étonné, en fin de compte, de cette sorte de lâche soulagement qu'il y a eu partout, à se dire « Oh, finalement, c'est peut-être moins pire qu'on ne le croit. En tout cas, on a évité le pire. » Et éviter le pire, ça a quand même consisté en un engagement de l'État représentatif, démocratique, agissant donc au nom de tous, pour renflouer de façon irréversible les banques, c'est-à-dire, en réalité, rétablir le système antérieur. Hein, absolument.
Alain Badiou, dans votre critique du capitalisme, vous avez quand même un concurrent qui est le président de la République. Là, il a été extrêmement sévère, si je pense à son discours de Toulon, contre le capitalisme.
Oh oui, il le déteste, le capitalisme.
Il le déteste, oui, oui, ce capitalisme, tout oui. Comme vous. Il ne tire pas tout à fait les mêmes conclusions que vous.
Non, il y a des nuances.
Est-ce que vous pouvez évoquer, pour finir, quelques-unes de ces nuances? Entre Sarkozy et Badiou, les petites nuances.
Non, mais il est évident que ce à quoi nous sommes habitués depuis les années 80, c'est que lorsque certains des aspects les plus déplaisants du monde contemporain montent à la surface, pour empêcher que se développe l'idée d'une transformation véritable, d'une rupture avec tout ça, on met en scène la morale. Et en vérité, ce que Sarkozy nous présente maintenant, c'est l'idée d'un capitalisme enfin moralisé.
Ben oui.
Voilà. Un capitalisme en somme honnête.
à visage
oui,
humain.
Oui, un capitalisme véritablement respectueux des intérêts de tout le monde. Alors ça, c'est un capitalisme comme ça, c'est très bien, quoi.
Avec c'est de l'éthique. Avec de l'éthique.
Oui, pour employer un mot savant, c'est un oxymore, un capitalisme moral, quand même. C'est-à-dire, l'adjectif ne convient pas tout à fait au substantif. Mais enfin, c'est quand même ce qu'on nous présente. Et ce qu'on nous présente partout. Et on fait la leçon, naturellement, au capitalisme. Et Sarkozy, quand il s'est présenté aux élections, on n'a pas tellement entendu qu'il faisait des leçons de morale au capitalisme, ni même qu'il en avait si fort au surprofit, etc. On l'a quand même vu déclarer que les riches payaient trop d'impôts, des choses comme ça. Mais là, il a eu une secousse, alors il nous fait une leçon importante de morale. Mais vous savez, l'anticapitalisme moralisateur, c'est une chose qui est une vieillerie d'extrême droite. C'est pas du tout une idée de l'extrême droite a tonné contre le capitalisme cosmopolite, etc. Donc, il enfourche le cheval bien connu de l'anticapitalisme de droite. Voilà. Et l'anticapitalisme de droite.
Il a un concurrent dans ce domaine-là qui est Le Pen.
Absolument.
Le Pen le fait souvent.
Le Pen le fait depuis longtemps. Le Pen, c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à parler avec le plus grand respect des ouvriers et des paysans. Bien il était peut-être même le dernier à le faire. Alors, ne nous étonnons pas si Sarkozy, quant à lui, peut tonner contre le capitalisme dégénéré et vouloir le capitalisme moralisé.
Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu fort en le comparant à Pétain ?
Oh bon, on n'y va jamais assez fort. Vous comprenez, si je ne l'avais pas comparé à Pétain, on n'aurait même pas vraiment remarqué ce que je racontais. Hein. Je l'ai comparé à Pétain parce que, pour des raisons que je donne tout de même. Je donne un argumentaire déployé de la comparaison avec Pétain concernant des choses qui sont oubliées. Et là, je voudrais quand même m'adresser aux auditeurs pour dire qu'il ne faut pas oublier si vite. Sarkozy est quand même quelqu'un qui a remporté les élections sur une thématique d'extrême droite dont le cœur était l'hostilité aux étrangers. Ça, il faut toujours revenir sur ce point. Il a fait sa carrière de président de la République comme ministre de l'Intérieur. Il a fait voter des lois scélérates sur tous les sujets, sur les jeunes emprisonnés, sur la régularisation des étrangers, sur les malades mentaux. Et alors, maintenant il vient nous faire de la morale sur le capitalisme, mais je souhaiterais qu'on n'oublie pas le dossier sur lequel il a été réellement élu. Et ce dossier, je le maintiens tout à fait, était un dossier inscrit dans la tradition de la droite française la plus extrême, la plus radicale et la plus corrompue. Et c'est pas parce qu'il vient me faire la morale maintenant, dans une situation dramatique où il est bien obligé, d'une certaine façon, de se tirer d'affaires comme il peut, après nous avoir vanté la mondialisation, les techniques anglo-saxonnes, avoir annoncé qu'on allait faire une rupture dans ce sens-là, etc. Eh bien, c'est pas parce qu'il vient de nous faire la morale que je change d'avis. Hein. Pétain aussi faisait la morale, beaucoup. Hein. Il était même un anticapitaliste assez résolu, Pétain.
Je voudrais pour finir qu'on parle un peu de la résistance. Vous résistez, vous êtes un opposant, mais après tout, vous avez les moyens intellectuels, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez un poste enviable, vous avez ce que Bourdieu appelait un capital symbolique important, ce qui vous permet de résister. Vous avez accès aux médias, à l'édition, etc. Mais il y a beaucoup de gens en France, dans ce pays, qui ont un mal fou à résister à cet ordre des choses. Ils sont isolés, ils sont seuls, ils sont coincés, et personnellement et affectivement aussi, c'est très dur de résister.
Non, mais ça, je le sais. Je le sais, et je pense malheureusement que nous sommes au début d'une longue route. Hein. Nous ne sommes pas du tout dans une situation favorable. La situation objective et subjective de ce pays est une situation très faible, très désastreuse aujourd'hui. Je le ressens moi-même. Et alors, je pense que le travail d'organisation, partant des réseaux de lutte qui existent, partant des résistances qui se manifestent, etc., est un travail d'organisation absolument fondamental qui va prendre un temps considérable, d'autant que tout le monde voit bien que les vieilles institutions de gauche sont au bout du rouleau. Hein. En fin de compte, l'effondrement du communisme soviétique n'aura été que le prélude de l'effondrement de l'ensemble des catégories de la gauche traditionnelle.
Hein, qui c'est-à-dire aujourd'hui que pas plus le Front de Gauche ni le NPA n'ont votre
je
sympathie
crois pas,
ou...
Je crois que ce sont des expériences inévitables, mais ce sont des expériences qui reposent sur les vieilles catégories, c'est du rapetassage tout ça. C'est un emplâtre sur une jambe de bois. Je pense que si on le regarde lucidement, on le voit bien. Par conséquent, il faut prendre les choses beaucoup plus en amont, malheureusement. Et il faut que les gens s'organisent pour résister là où ils sont, sur ce qu'ils peuvent, le plus possible, naturellement. Mais le travail de fédération de tout ça, le travail d'intégration de tout ça, ne peut se faire qu'au nom d'une grande idée. C'est un point sur lequel je ne peux pas céder, parce que j'en suis convaincu, j'en suis terriblement convaincu. Il faut une grande idée. Il a toujours fallu une grande idée.
Un horizon, un grand
absolument.
Horizon.
Et sans une grande idée, vous aurez des résistances désespérées et localisées, mais elles ne pourront pas convaincre ni unifier les gens, parce que les gens ne peuvent opposer à la machinerie capitaliste, à son organisation, à la démocratie telle qu'on la leur présente, etc., qu'au nom, si je puis dire, d'une idée dont le poids est comparable. Je propose, moi, que cette idée soit l'idée communiste parce qu'elle a déjà une histoire et qu'on peut la placer dans cette histoire. Je suis prêt à entendre toute autre proposition. Mais c'est pas l'échelle de la préparation des prochaines élections régionales, vous comprenez.
Mais Alain Badiou, quand est-ce qu'on décide d'avoir un horizon, d'aller vers un grand soir?
Écoutez,
comment
crois,
ça se décide, ça?
Je crois que ça se décide toujours dans une expérience personnelle qui arrive à conjoindre une situation dans laquelle on est engagé, véritablement, une situation qu'on considère comme une situation essentielle pour soi-même, et puis, en effet, un contact minimum avec ce que j'appelle l'idée. Ce contact avec l'idée, c'est quand même, en partie, la responsabilité des intellectuels, il faut le dire comme c'est. Et donc, on en revient toujours à la même histoire. Il ne se passera rien tant que n'aura pas été constituée une nouvelle zone de contact, quelle qu'elle soit, entre les intellectuels porteurs de l'idée, de la possibilité de l'idée, de son histoire, etc. Et puis des situations effectives, quelquefois dramatiques, d'engagement personnel.